La croissance verte n'existe pas, n'existe pas.
Alors la réponse est non, la réponse est non, non, non.
We will have to change, we will have to change. Hope is not blah blah blah. Blah blah blah.
Bonjour et bienvenue dans les décroissants tout chauds. Nous sommes en direct du village des sciences et de l'industrie au technopôle d'Alimentech. Et le thème de cette 33e fête de la science, eh bien c'est l'eau. Plus exactement, l'océan des savoirs. L'eau, quoi de plus banal, de plus quotidien? Elle coule de nos robinets d'aussi loin que nos souvenirs nous portent. Elle paraît inépuisable, constamment disponible, accessible à moindre coût, évidente, comme l'eau qui coule de source. Et pourtant, elle est aujourd'hui menacée de manière extrêmement préoccupante. Trop abondante à certains endroits de la Terre, trop rare à d'autres, polluée, acidifiée, détournée, gaspillée, exploitée, elle est fortement impactée par le dérèglement climatique et la chute de la biodiversité. Or, l'eau, évidemment, nous est absolument indispensable pour notre hygiène, pour nos industries, pour notre agriculture, mais avant tout, pour boire. Si le corps humain peut se passer de nourriture pendant plusieurs semaines, ne pas avoir accès à de l'eau potable vous fera passer de vie à trépas en quelques jours. Littéralement, l'eau,
c'est la vie.
Et comme d'habitude, dans les décroissants tout chauds, nous vous faisons découvrir des livres dont le thème est l'écologie, la défense du vivant. Notre premier livre, tout récemment paru, est celui de l'hydrologue Charlène Descollonges, qui donne d'ailleurs une conférence cet après-midi même à Champagne-en-Valromey. Et le second livre s'adresse à la jeunesse et c'est Lola qui nous en lira quelques extraits. Bonjour Lola.
Bonjour.
Mais avant cela, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Claude Aléo, président de l'AAA, l'Association Astronomique de l'Ain, qui va nous parler de l'origine de l'eau et de sa quête à travers l'espace. Bonjour Jean-Claude Aléo.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous nous présenter votre association, l'AAA, et vos activités?
Alors l'AAA, c'est un club d'amateurs astronomes qui a été créé il y a un peu plus de 50 ans. Qui a son siège à Caesarea et qui a la chance d'avoir un observatoire juste au-dessus de Caesarea, sur le mont Julie, où on dispose de quelques instruments qui sont mis à disposition des membres du club pour apprendre et se perfectionner dans le domaine de l'astronomie d'amateur.
Beau programme. Et tout près de nous, au village des sciences, je crois qu'il y a une attraction qui a beaucoup de succès, c'est le Planétarium Bressan.
Effectivement, le planétarium est dans la même salle que notre stand de l'astronomie. Il est avec son créateur, qui s'appelle Yves Loumeau, qui a créé cette structure, une structure mobile qui peut aller se déplacer, aller dans les écoles, dans les centres de loisirs, pour recréer la vision du ciel telle que pourrait être quand il n'y a pas de nuages, par exemple.
Passionnant. Et je pense qu'il y a énormément de monde qui vient dans ce planétarium, des enfants notamment, mais pas uniquement.
Effectivement, toutes les séances depuis ce matin ont été complètes. Donc si vous êtes intéressé, en arrivant au village des sciences, passez d'abord au planétarium, réservez votre place et vous serez sûr de pouvoir participer.
Très bien. Pour en revenir à l'eau, je crois que Lola a une question à vous poser.
Est-ce que c'est vrai que l'eau vient de l'espace ?
Et c'est vrai, oui. L'eau fait partie des premiers corps qui ont été créés dans l'espace. En fait, depuis l'origine, depuis ce qu'on appelle le Big Bang, il y avait de l'hydrogène dans l'espace. Et puis, au cœur des étoiles qui se sont formées, l'oxygène a été fabriqué au cœur des étoiles et il est venu s'unir à l'hydrogène pour former des molécules d'eau. Donc au départ, elles sont un peu disséminées dans l'espace. Elles se mettent sur les petites poussières qui flottent un peu partout. Ensuite, ces poussières s'agglomèrent. L'eau vient avec, forme des petits corps qu'on appelle des planétoïdes, puis des planètes. Et l'eau, comme ça, a ensemencé un peu partout dans l'univers.
C'est une sorte de chimie des origines.
Absolument, oui. C'est une des plus importantes réactions chimiques qui régit l'univers.
D'accord. Et pourquoi la Terre donc est une planète bleue où la vie a pu se développer et a priori la vie n'a pas pu le faire sur d'autres planètes ?
Alors, on a la chance sur la Terre d'être situé à une distance idéale de notre étoile, c'est-à-dire que les planètes qui sont plus près du Soleil, comme Mercure et Vénus, bien, il fait un peu trop chaud pour qu'il y ait de l'eau liquide. Et si on part ensuite vers Mars, et, enfin, Mars, c'est encore un peu discutable, mais à partir de Jupiter, là, il fait trop froid pour qu'on ait de l'eau liquide. Donc, on a une zone qu'on appelle la zone habitable, dans laquelle la Terre se trouve et où elle a pu développer de la vie.
Donc, on a une distance parfaite, idéale, en fait.
C'est ça.
Et donc, sur Mars, il n'y a pas d'eau.
Alors, sur Mars, on sait qu'il y en a eu de l'eau. On a eu la preuve parce que les rovers qui sont allés arpenter la surface de Mars ont trouvé, par exemple, des roches sédimentaires, comme on a sur Terre. Ils ont trouvé des traces de formation, par exemple, de crevasses, comme dans une mare asséchée. Donc on sait qu'à une époque, il y a eu de l'eau sur Mars. Mais les circonstances, en particulier l'absence de champ magnétique de Mars, a fait que, sous l'effet des particules éjectées par le Soleil, l'atmosphère s'est évaporée, et donc l'eau s'est évaporée en même temps. Et maintenant, Mars est en quelque sorte un désert glacé. Il y a peut-être encore un peu d'eau dans le sous-sol, mais on n'en a pas encore la certitude.
Donc Elon Musk est mal barré, hein, en fait.
Bah, il va falloir qu'il apporte son eau.
Oui. Il va falloir qu'il apporte son eau, sa bouteille d'eau. Et est-ce qu'on trouve de l'eau en dehors de notre système solaire? Est-ce qu'on est capable de vérifier ça? Est-ce que sur les exoplanètes, il pourrait y avoir de l'eau aussi?
Oui, c'est probable. On sait déjà que même à l'intérieur du système solaire, par exemple autour de Jupiter ou autour de Saturne, il y a des satellites, des petites lunes qui sont couvertes de glace. Mais on sait que sous cette glace, il y a de l'eau liquide. Des prochaines missions vont mettre cela en évidence. Et donc, si ça existe autour du Soleil, forcément, ça existe autour des autres étoiles. Et on imagine même, si vous venez sur notre stand, hein, on a quelques images là-dessus, on imagine des planètes océans, c'est-à-dire des planètes entièrement recouvertes d'eau qui pourraient exister autour d'autres étoiles dans notre galaxie ou ailleurs.
D'accord. Et justement, du coup, avec ce télescope, on peut voir à quelle distance? Est-ce qu'on peut voir d'autres galaxies? Jusqu'à quelle profondeur, en fait, on peut voir?
Alors ça, c'est une question qu'on nous demande souvent dans les soirées d'observation. On nous dit, avec votre télescope, on voit jusqu'à quelle distance? Mais ça, c'est très difficile à déterminer parce qu'il y a un autre facteur qui joue, c'est la luminosité de l'objet qu'on regarde. Par exemple, si on regarde une étoile isolée, toute seule, on pourrait voir, même à l'œil nu, on peut voir jusqu'à 2500, 3000 années-lumière, ce qui est déjà une belle distance. Mais un objet comme la galaxie d'Andromède, qui contient 200 milliards d'étoiles, cet objet est beaucoup plus lumineux et on le voit à 200 millions d'années-lumière. Donc, suivant la luminosité de l'objet, la distance à laquelle on peut voir est variable. Après, dans l'absolu, si on recherche l'objet le plus lointain qui a été vu avec un télescope, eh bien, on va se tourner vers le dernier né de la technologie qui s'appelle le James Webb Telescope, qui, lui, aurait détecté une galaxie à quelque chose comme 30 milliards d'années-lumière.
Impressionnant.
Chiffre astronomique, bien
astronomique,
sûr.
Astronomique, bien sûr, oui. Ok. Donc merci beaucoup Jean-Claude Aléo pour toutes ces explications passionnantes.
Je vous en prie.
Avant de nous quitter, je crois que vous avez une annonce à faire pour le week-end prochain.
Oui, effectivement. Si le ciel veut bien être clément, nous aurons une séance d'observation à notre observatoire au-dessus de Césaria, l'observatoire Pierre Johannard. Donc ce sera samedi prochain, 12 octobre, à partir de 20h jusque vers 23h. Ou plus, s'il y a encore du monde. Si vous venez, un petit conseil, couvrez-vous bien, mettez des bonnes chaussures.
Apportez la petite laine. Donc.
Oui, voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est bien noté.
Un café? Un nez croissant tout chaud?
Vous êtes bien sur Radio B, avec Gaëlle
et Lola.
Alors, vous voulez agir pour l'eau, mais vous ne savez pas comment faire ni par quoi commencer. Charlène Descollonges, ingénieure hydrologue spécialisée dans la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques, répond à vos questions dans son livre « Agir pour l'eau, le mode d'emploi citoyen » qui vient de paraître aux éditions Tana. Quelles mesures adopter chez soi ? Comment réduire son empreinte eau à travers son alimentation, ses modes de transport, sa consommation d'énergie, ses objets numériques ou ses vêtements. Parlons un peu d'ailleurs de la fast fashion et de ses dégâts. Nous n'avons jamais autant produit et jeté de vêtements. En France, on porte à peine un tiers des habits que l'on possède. Après avoir porté en moyenne un pull, une robe, un pantalon, une veste, 7 à 10 fois, on s'en lasse et on s'en débarrasse. Et une infime partie de ces vêtements jetés, 1%, parviendra à un circuit de seconde main. La plupart finiront brûlés ou à la décharge dans les pays du Sud. Quant aux sites de revente en pleine expansion, comme Vinted, ils poussent malheureusement à la surconsommation. Et ils ont un fort impact carbone dû au stockage des données numériques, à l'emballage et bien sûr au transport. Et tout cela est également très gourmand en eau. On appelle ça d'ailleurs l'eau virtuelle. Donc, la seule solution, eh bien, c'est la sobriété. Bref, vive la slow fashion. Les dernières mesures préconisées par l'hydrologue, mais non des moindres, sont nos engagements en tant que citoyens. Dans les entreprises, dans les organisations politiques, les associations. On parle ici de notre argent, de nos assurances, de notre travail, mais aussi de nos connaissances. La majorité des Français estiment que leur niveau de connaissance, leur culture sur les questions écologiques, n'est pas à la hauteur des enjeux, que ces questions sont trop complexes et qu'en tant qu'individu, ils ont peu de pouvoir. Et pourtant, il est urgent d'agir, urgent de s'interroger sur son inaction et de prendre le temps d'apprendre. Comprendre les causes et les conséquences du dérèglement climatique, comprendre la biodiversité, comment la situation va évoluer et comment agir à titre individuel et au niveau collectif. Comprendre, c'est ce qui donne envie d'agir et nul besoin d'être un expert scientifique pour passer à l'action. Quelques pistes pour renforcer sa compréhension des grands enjeux humains et écologiques. Écouter par exemple des podcasts comme The Big Shift, Sismic, Green Letter Club, s'informer auprès des médias indépendants comme Limit, Circular Métabolisme, Blast, Mediapart ou écouter Radio B.
Un café, un écroissant tout chaud.
Vous êtes bien sur Radio B avec Gaëlle
et Lola.
Sauvons la mer et les océans, manuel de l'apprenti écolo, écrit par Agnès Van de Viel, paru aux éditions Vagnon. Ce livre est disponible à la médiathèque Césaire. Il explique le rôle des océans dans le climat, pourquoi la mer monte, quelles sont les espèces marines en danger, comme les tortues, les pollutions, métaux lourds, plastiques, les ravages de la surpêche, et pourquoi il faut protéger les requins, qui sont apparus bien avant les dinosaures et sont indispensables au bon fonctionnement de l'océan. À la fin du livre, il y a une charte du gardien des océans, en 19 points. J'ai choisi d'en lire 6 parce que 19, ça fait beaucoup quand même. Pour économiser l'eau, je ne laisse pas l'eau couler quand je me brosse les dents ou que je me lave les mains. Je prends une douche plutôt qu'un bain. Je ne jette pas de coton-tige dans le lavabo ni dans les toilettes. Pour faire les courses, je prends un panier, un sac en tissu ou un sac à dos. Je n'utilise pas de sac en plastique. J'achète des produits locaux qui n'ont pas voyagé par des transports polluants. Je mange des fruits et des légumes de saison. J'éteins la lumière dès que je quitte une pièce inoccupée. Je ne laisse pas mon ordinateur ou la télévision en veille. En vacances à la mer ou à la montagne ou partout ailleurs dans la nature, je prévois un sac pour rapporter mes déchets à la maison. Je ne laisse rien dans la nature. J'utilise de la crème solaire bio qui ne détruit pas les coraux. Et enfin, je remplis une gourde avec de l'eau du robinet au lieu de prendre une bouteille d'eau en plastique.
Merci Lola. Pour terminer, suivons à nouveau Charlène Descollonges qui nous enjoint de sortir du paradigme de la peur. puisqu'on l'a trop longtemps considérée comme une ressource infinie, constamment disponible, une chose à contrôler, l'eau se fait de plus en plus remarquer par son absence ou son débordement. Plutôt que de s'en méfier, d'en avoir peur, ne pourrait-on pas chercher à comprendre ce qu'elle nous dit ? Nous devons chercher à comprendre de quelle rivière et de quel fleuve nous dépendons, comprendre que nous avons toutes et tous intérêt à ce que notre hydrosystème soit en bonne santé pour vivre, être nous-mêmes en bonne santé et développer nos activités. Les crises de l'eau sont liées à la crise de la biodiversité et du climat. Elles s'enracinent dans nos modes de consommation insoutenables. Il s'agit moins de faire les bons éco-gestes que de s'engager dans un changement profond de nos modes de vie et d'adopter un nouveau regard sur l'eau. Ralentir notre course à la croissance infinie, diminuer notre consommation de protéines animales, de vêtements, d'énergie, de numérique, ralentir notre hypermobilité et prendre le temps de voyager autrement. Nous sommes en train de vivre une véritable bascule dans l'histoire de l'humanité. D'une ère de feu, très masculine et linéaire, qui extrait, consomme et jette des ressources, qui maltraite les rivières comme on maltraite les femmes, qui brûle et rase les forêts, qui consomme les énergies fossiles jusqu'à compromettre les conditions de notre propre survie, nous basculons vers une ère de l'eau, plus féminine, plus holistique, qui prend soin, qui nourrit, qui lave et qui régénère, telle une crue qui dépose des limons fertiles. Agir pour l'eau, le mode d'emploi citoyen, Charlène Descollonges aux éditions Tana. Les décroissants tout chauds vous saluent bien. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Nous découvrirons le livre de Victor Noël intitulé « Je rêve d'un monde », plaidoyer d'un adolescent pour la biodiversité. Bonne fête de la science, vive la science et vive les scientifiques, les biologistes, les glaciologues, les hydrologues, les physiciens, les astrophysiciens, les anthropologues, les paléontologues, les géographes, les historiens, les sociologues, les géologues, les chimistes et les botanistes. Et j'en passe. Bref, tous ceux qui éclairent notre monde.
À bientôt sur les bonnes ondes de Radio B.
On écoute Renaud dès que le vent soufflera.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens. Un mordi, j'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, en allons. Oh, 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 il sait, oh, oh, oh. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure, son homme qui la quitte. La mer c'est son malheur, dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris, comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Oh, 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 il
c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Tabardi, Pajot, Kersauzon et Ridel n'habitent pas sur des cajots, ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requins.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
Dès que le vent